Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne tout de suite avec Rav Elie Lemel. Bonjour ou bonsoir Rav Elie Lemel et Shabbat Shalom.
Bonjour.
Shabbat Shalom. Rav Elie Lemel, on continue comme chaque semaine à survoler notre paracha et donc là on arrive à Kitissa. Kitissa qui évidemment est extrêmement riche, d'autant plus que vous nous aviez enseigné il y a la semaine passée ou il y a 15 jours qu'on est dans le cadre de 4 grands Shabbatot et que donc là on est aussi à Shabbat Parah. C'est comme ça jusqu'à Pessah, jusqu'à Pâques. Mais vous voulez intervenir sur un point précis. Après la faute du veau d'or, Dieu, Hachem, a des mots très précis. Il dit à Moshe, à Moïse, « Descends, et ton peuple a fauté. » Alors évidemment, déjà, « ton peuple a fauté ». C'est-à-dire, c'est même plus le peuple de Dieu, ou je ne sais pas, il y a eu des livres et des livres qui ont été écrits sur cette question, mais vous voulez aussi réfléchir, si je comprends bien, sur l'idée de descendre. Ça veut dire quoi, descendre? C'est pas seulement physiquement. Enfin bref, qu'est-ce que dit Dieu à ce moment-là à Moïse, à Moshe Rabbeinu?
Exact. On est ici dans un moment qui est au fond bouleversant, puisque c'est le moment dans lequel le peuple d'Israël va faire cette faute dramatique, qui est donc le veau d'or. Et les maîtres du Talmud nous disent que ça serait à l'image d'une fiancée qui, sous le dénuptial, se détourne de son mari et va vers ailleurs. Le peuple d'Israël vient de recevoir la Torah au Sinaï. Il a vu littéralement la présence divine à travers la révélation. Et puis, eh bien, voilà, on est 40 jours après. Et ce n'est pas juste qu'ils hésitent, mais ils vont se tourner vers cette autre divinité, vers ce veau en or, avec toutes les implications que ça va avoir. Et surtout dans l'histoire du peuple d'Israël, puisque cette faute, au fond, va rester un petit peu accrochée au peuple juif pendant toutes les générations. Alors, on a Moshe qui est donc sur le Sinaï, et Dieu qui dit « L'air raide va descendre, kishichet amra, car ton peuple s'est dévoyé, celui que tu as fait monter d'Égypte, ils se sont écartés rapidement du chemin que j'ai ordonné, ils ont fait donc cette divinité. » Tout d'abord, on va s'arrêter sur le terme de « Amra, ton peuple ». Alors, vous disiez très bien, ce n'est pas le peuple de Moshe, c'est le peuple d'Israël, c'est celui que Dieu a choisi. Au fond, ici, 19 mètres, ça fait allusion à tous ces Égyptiens qui ont décidé de s'agréger au peuple d'Israël et que Moïse a accepté comme étant quelque part un petit peu les premiers convertis de l'histoire. Et on sait que le Talmud nous dit que « Kashim guérim l'Israël que sa parade », que les convertis, ils sont plus difficiles pour le peuple d'Israël que la lèpre. Alors vous allez me dire, c'est une phrase qui n'est pas simple à entendre, mais nos maîtres nous disent, oui, il y a deux lectures, et qui sont toutes les deux vraies. La première, c'est que lorsque la conversion arrive pour de mauvaises raisons, eh bien, à un moment, on a des personnes qui légalement sont juives, mais qui quelque part ne se sentent plus du tout concernées. Mais l'autre explication, c'est que eh bien, lorsqu'ils ont décidé véritablement de s'engager, ils sont tellement exemplaires que quelque part ils sont bouleversants pour les Juifs qui ont décidé de mettre un petit peu de côté l'univers de la Torah parce qu'ils se confrontent à des personnes qui n'avaient aucune forme d'obligation et qui ont décidé de prendre sur eux d'être à l'écoute de la parole d'Hachem dans tout ce qu'elle nous demande en tant que Juifs. Et donc ici, il s'agit en effet de justement de ce Erev Rav, c'est-à-dire de ceux qui vont faire partie du peuple d'Israël, bien sûr, mais qui au fond, eh bien, j'ai presque envie de dire, sont venus par opportunisme. Et là, maintenant que la situation est complexe, maintenant qu'on ne sait pas où est passé Moshe, eh bien, tout de suite, malheureusement, les réflexes remontent et puis on va aller vers les idoles. Mais alors, Dieu dit à Moshe, l'air raide, va et descend. Évidemment, Moshe sur le Sinaï, on se doute bien que s'il doit aller vers son peuple, il va devoir redescendre. Alors, première lecture, bien sûr, raide, migdolatra, descend du niveau qui est le tien. Eh bien maintenant, il va falloir que tu rejoignes ton peuple et le peuple d'Israël dans sa globalité ont descendu, malheureusement sont descendus d'un niveau, même de plusieurs niveaux. Il va falloir maintenant que tu ailles te mettre avec eux pour pour leur permettre justement de sortir, j'ai envie de dire, de ce mauvais pas pour que l'histoire démarre. Elle ne pourra pas redémarrer de la même manière, clairement. On ne va pas avoir les mêmes tables de la loi. Dans les premières, on avait tout qui était d'origine divine. Dans les secondes, ce n'est plus le cas. Mais néanmoins, il lui dit, l'air raide va et descend. Il va falloir maintenant que tu le rejoignes. Mais nos maîtres font remarquer quelque chose de très intéressant à propos du mot justement raide. Va et descend. Raide, deux lettres. Resh et Dalet. Il y a un texte du Talmud qui est très surprenant et qui dit la chose suivante. Lorsque le scribe, le sofer, est en train de rédiger un Sefer Torah, lorsqu'il écrit un Sefer Torah avec sa plume et cette encre, eh bien, il doit faire particulièrement attention à ce qu'une mouche ne vienne pas tremper ses pattes dans l'encrier, parce qu'elle risquerait de transformer le Dalet en Resh, et le monde entier peut en être bouleversé. Texte a priori plutôt énigmatique. Qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter ici? Alors, pour ceux qui ont l'habitude de lire dans le Sefer Torah, dans le livre de la Torah, ils sauront que parfois, de rares fois d'ailleurs, eh bien certaines lettres sont écrites soit en plus petit, soit en plus grand. Dans le mot Vayikra, par exemple, du troisième livre de la Torah, le Aleph est plus petit. Mais il y a parfois certaines lettres qui sont écrites en plus grand que les autres. On dirait aujourd'hui en langage informatique, vous avez une police de caractère de 12, et puis brusquement, vous avez une lettre qui est en police de caractère 14 ou 16. Et dans le verset, par exemple, du Shema, « Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad »« Écoute Yisrael, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est unique », eh bien le Dalet du mot « Echad », qui veut dire « un », c'est un grand Dalet. Il est plus grand que les autres lettres. Et par ailleurs, nous avons un autre verset qui nous dit « Ki lo tishtachave le el acher » On te demande de ne pas te prosterner le el devant une divinité acher autre. Et la lettre resh du mot acher, eh bien elle aussi est en police de caractère 14 ou 16, elle est plus grande que les autres. Vous aurez constaté quand j'ai prononcé ces deux mots que les deux premières lettres de ces deux mots sont identiques. En effet, Echad, Aleph, Chet, et la troisième, Ched, le mot Acher qui veut dire autre, les deux premières lettres sont identiques. C'est le Aleph et le Chet. La troisième lettre, c'est le Resh. Echad, Acher, les deux premières lettres identiques, ce sont la dernière lettre du mot Echad, le Dalet, et la dernière lettre du mot Acher qui est un Resh. Intéressant. Vous savez qu'au niveau de la graphie des lettres, le Dalet, c'est un angle droit. La lettre Resh est quasiment la même que le Dalet, si ce n'est que ce n'est pas un angle droit. L'angle est légèrement arrondi. Mais entre les deux, il y a une différence minime. Eh bien, la petite mouche pourrait en effet mettre un petit peu d'encre à l'angle droit du Dalet et le transformer en Resh. Et nous lirions à ce moment-là, écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel, Hachem, Acher, est autre. Et nous constatons de manière très intéressante que le mot Red, qui veut dire descend, est constitué justement de ces deux lettres, Resh et Dalet. Comme si au fond, Dieu était en train de dire à Moshe, malheureusement, ces deux lettres ont été interchangées. Le Dalet de Echad est devenu le Resh de Acher. D'un Dieu unique, on est arrivé vers d'autres divinités. Alors vous allez me dire, que fait la mouche dans cette histoire? Eh bien, vous aurez constaté sûrement, si vous avez un petit peu observé ce genre de petits insectes, que généralement on les trouve là où il y a une petite fente, une toute petite plaie, un fruit, mais qui a été légèrement ouvert. C'est minuscule, mais la mouche va se placer là-bas et si elle y reste un peu trop, eh bien au bout d'un moment, elle peut y mettre ce qui va amener une forme de pourriture. La mouche, disent nos maîtres, c'est tout simplement cet élément qui va, lorsqu'il y a une petite difficulté, une petite question, une petite problématique, quelque chose qui ne va pas exactement comme on voudrait, se mettre là. et amplifié jusqu'au moment où on arrive au Egel Azav, c'est-à-dire au veau d'or. Oui, c'est vrai. Moshe a dit qu'il descendrait dans 40 jours. Mais au fond, les 40 jours, c'est 40 fois 24 heures. À partir de quand ça se compte? Est-ce que ça se compte à partir de l'heure où il est parti pour monter sur le Sinaï ou alors à la fin de la journée? On est ici sur quelques heures de différence, sur une petite difficulté. Il ne faut pas attendre trop longtemps, on verra bien. Et là, eh bien, ce Erev Rav, ceux qui sont venus s'agréger au peuple d'Israël, mais par intérêt, eh bien, ça y est, il y a une petite ouverture. La mouche arrive et elle commence à faire son travail de sape. Et brusquement, le Dalet devient Resh et on est Kel Acher. L'air raide va et descend. Et donc ici, cette leçon fondamentale que la Torah est en train de nous donner. En effet, dans la vie de tout un chacun, il y a des petits moments où, en effet, les choses ne sont pas exactement comme on voudrait. On peut avoir une petite question, quelque chose qui est un peu difficile. Et c'est à ce moment-là où, justement, nous devons être très vigilants, nous renforcer dans notre émouna, nous renforcer dans notre confiance, savoir qu'en vérité, les choses vont changer, vont bouger dans le bien de manière évidente, même si on ne le voit pas immédiatement. Car sinon, en effet, eh bien, c'est le Erev Rav qui arrive avec la catastrophe de Egel Azav du veau d'or. À partir de là, évidemment, nous comprenons ô combien. Eh bien, nous avons la responsabilité de faire en telle sorte que le Dalet de Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad reste un Dalet, d'être dans cette vigilance, dans ce travail, et c'est à travers cela, entre autres, que l'on fait le tikkun, que l'on fait la réparation de cette faute du Egel Azav, qui, lorsqu'elle sera complètement réparée, nous ouvrira à l'ère du Mashiach Bimera Biamenu. Amen.
Amen. Amen. C'est tellement dur hein, ce que vous dites. Je vous écoutez, même dans les relations humaines. En fait, souvent on se dit c'est être adulte, quoi. C'est savoir que c'est pas parce qu'il y a un truc qui fonctionne pas que faut remettre en cause les choses. Et on voit ça aussi dans les relations humaines, non?
Complètement, évidemment. La plupart du temps, les personnes souvent prétextent une chose et à partir de ça en font un monde. Et c'est ça qui est dramatique, c'est lorsque l'on commence à étaler les choses et à faire en telle sorte que l'événement eh bien, va prendre à terme toute la place et le reste disparaît. Et c'est là où, en effet, on se doit d'être dans cette vigilance. Et quand Dieu dit l'air raide, il dit voilà, c'est sur ça qu'il va falloir maintenant regarder. C'est à ça qu'il va falloir faire attention.
Fondamental, fondamental, magnifique. Rav Eli Lemel, je vous remercie et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom ou Mevorach.
Et de belles choses sur cette belle ville de Jérusalem qui nous protège tous. Rav Mordechai Biton, on continue à survoler notre paracha. Et vous voulez poser une question. Au final, disent les sages, il n'y a pas tant de gens que ça qui ont participé, heureusement d'ailleurs, à la faute du veau d'or. Je m'explique. Enfin, c'est vous qui allez expliquer, mais pour qu'on comprenne. Les Lévis, non. Les femmes, donc déjà un juif sur deux, non. N'ont pas participé. Issachar, enfin bon, il y a tout. Il y en a. Et finalement, ça ne fait pas. Or, et d'ailleurs, vous, Rav Mordechai Biton, vous nous avez enseigné depuis que vous participez à cette mission, qu'on vous retrouve tous les vendredis, que nous payons jusqu'à aujourd'hui cette faute. Je Donc, ça pose un problème. Enfin, en tout cas, ça pose un questionnement auquel il faut essayer de répondre.
Absolument.
Pour, que...
Absolument.
Voilà, alors, pour quelques gens, simplement, tout le monde paye jusqu'à aujourd'hui.
Exactement. Et il faut souligner également, parce que c'est intéressant par rapport à la réponse à cette question, que ce Shabbat, nous faisons également le Shabbat Parashat Para, puisque pendant le mois de Hadar, nous rajoutons à quatre reprises des textes de la Torah en rapport avec les préparatifs de Pessah. Le Shabbat Para, c'est le Shabbat où on lit le texte relatif à la vache rousse. Or, vous savez que les cendres de la vache rousse constituaient un choc, c'est-à-dire une loi inaccessible à l'esprit humain d'emblée, à l'intelligence humaine, à la logique humaine d'emblée. Et les cendres de la vache rousse permettaient d'amener la purification, notamment pour toute personne qui était frappée d'impureté rituelle et donc qui n'aurait pas pu participer au sacrifice de Pessah. Alors je reviens à la réponse à cette question. Effectivement, peu de gens ont participé au veau d'or et l'ensemble du peuple est réprimandé. Hachem lui-même dit à Moshe Rabbeinu, je vais exterminer ce peuple. Mais ça n'est pas la première fois qu'on voit ce phénomène. On l'a vu également dans la manne. Dans la manne, finalement, il y a deux personnes qui sont sorties pendant Shabbat pour aller ramasser de la manne, contrairement à l'ordre qui avait été donné par Hachem de ne pas sortir pendant Shabbat ramasser de la manne. Datan et Aviram. Et là, Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu et lui dit « Admata im atem lishmor et divotai » jusqu'à quand vous allez vous obstiner à ne pas observer mes commandements. Mais pour deux personnes qui sont des opposants irréductibles à Moïse, à Moshe Rabbeinu, Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu, à Moïse, en lui disant quand est-ce, jusqu'à quand vous tous, vous allez refuser donc d'observer mes commandements. Donc on voit qu'il y a dans la parole divine une interpellation collective, alors que c'est seulement une minorité de gens qui est concernée. Et la réponse est la suivante. La réponse, elle est la suivante. Elle est que le veau d'or a été en fait le premier acte d'œcuménisme, si je puis dire, avec l'idolâtrie. C'est-à-dire que finalement, toute une série de gens sont restés dans une certaine indifférence. Ils ont dit finalement, vous faites le veau d'or, mais nous, on n'est pas d'accord avec vous, mais on ne va pas s'opposer à vous. Or, le veau d'or, c'était une remise en cause fondamentale de la foi juive et du monothéisme juif, parce que c'est un acte d'idolâtrie. Donc ça aurait nécessité au moins une prise de position claire et nette. Or, on voit que ce n'est pas ce qui va se passer. On voit que une grande partie des ministres d'Israël vont rester indifférents. Et donc, la première fois que se manifeste une espèce d'œcuménisme. Dans l'histoire de Pourim, on voit la même chose. Combien de personnes ont participé au festin de Assuérus ? Combien de personnes sont parties fêter la destruction définitive du temple de Jérusalem ? Combien de personnes ont participé à ça ? Quelques milliers, 16 500, 18 500, selon les chiffres. Encore une fois, c'est une minorité. Il y avait des millions de Juifs qui étaient exilés sur le territoire de l'Empire babylonien et de l'Empire perse. Donc là encore, on retrouve ce phénomène. Et finalement, il y a ici une idée qui est une idée peut-être basique, fondamentale, qu'il faut comprendre. Mais encore une fois, c'est une idée qui défie l'intelligence humaine. Le peuple juif, c'est un peuple qui a une neshama collective. Et donc lorsqu'un juif faute, c'est comme si en quelque sorte il creusait un trou dans le bateau sur lequel se trouvent tous les juifs. Et donc tout le monde est appelé à se manifester. Que lui ne le comprenne pas, que celui qui faute ne le comprenne pas, c'est une chose, mais que ceux qui sont autour ne comprennent pas qu'il est en train de creuser un trou qui va tous nous envoyer par le fond, ça c'est la pire des choses. Et c'est finalement ce qui permet de comprendre l'argument de Haman. Haman, il va venir devant Assuérus, il va lui dire « Yeshno amecha de Mefuzaria » et c'est un peuple, c'est normalement un peuple de l'unité. C'est un peuple du Dieu un, qui a une neshama collective, qui a une âme collective. Et là maintenant, il est complètement éparpillé, il est complètement divisé. Une partie suit les commandements, une partie ne suit pas les commandements. Et d'ailleurs, c'est en remez, c'est en allusion dans ce verset où Haman s'adresse à Assuérus. Il dit « Vedatem shonot » et leurs différences, leurs religions sont différentes. « Ven chauvé la mêlère » et ça ne sert à rien pour le roi, l'Ishmorotam, de les garder. C'est qui ce mêlère dont on parle, ce roi dont on ne donne pas le nom dans la Megillah ? C'est Hachem. À chaque fois que le mêlère, le roi, est mentionné sans qu'on dise que c'est Assuérus, c'est Hachem. Et ce premier verset nous dit finalement, en allusion, le roi des rois n'a aucun intérêt à les garder puisque finalement ils sont divisés, une partie observe ses commandements, une partie n'observe pas ses commandements. Mais le pire de tout, c'est que même ceux qui observent finalement sont dans une relative indifférence. La fête de l'indifférence. Ne pas comprendre que ceux qui sont en train de creuser le trou nous envoient tous par le fond et donc se dire de cette manière, ben voilà, c'est des chilonim, c'est des gens qui ne comprennent rien, ils sont complètement en dehors du coup. Mais pas du tout. Ces gens-là, ils ont besoin de recevoir une Torah, et ils ont besoin que, s'ils ne peuvent pas la recevoir, au moins qu'on puisse prier pour eux, mais qu'on ne soit pas indifférent. Et ça, ça a été la faute du veau d'or, c'est la faute de l'indifférence. Et cette faute-là, c'est une faute qui finalement structure les esprits. Cette structure de l'indifférence, c'est la structure de base de la séparation dans le peuple juif. Finalement, le sort de mon voisin ne m'intéresse pas. Je peux m'en désintéresser. Je ne suis pas concerné. Moi, finalement, je suis religieux, je serai sauvé. Je fais Shabbat, je serai sauvé. Mais pas du tout. Pas du tout. Et c'est ce que Rav Zamir Cohen a dit il n'y a pas très longtemps au sujet des affrontements, pas ici, là, pas pour les manifestations, ben non, mais il y a quelques ans, au sujet de ce qui se passait pendant le Covid. Il disait, à l'époque de la destruction du Second Temple, les Juifs se sont affrontés et ont trouvé à peu près les mêmes clans qu'aujourd'hui. il y avait les extrémistes politico-religieux qui voulaient se battre avec les Romains, il y avait les Chachamim, les sages, qui voulaient préserver l'essentiel, la Torah et peut-être même le Temple, il y avait les réformistes de l'époque, il y avait les ignorants de l'époque, mais quand les Romains sont rentrés, ils ont tué tout le monde. Et là, finalement, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui et c'est un peu ce que nous enseigne ici cette faute du veau d'or. Cette indifférence, c'est finalement la structure d'esprit de la division du peuple juif, comme si on n'était pas un peuple un. Mais ça, il faut se le rentrer dans la tête une bonne fois pour toutes. C'est la faute la plus fondamentale, parce que jusqu'à aujourd'hui, elle continue. Cette idée que finalement, on ne fait pas partie d'un même peuple. C'est faux. Cette idée est tout simplement faute et c'est la raison pour laquelle la faute du veau d'or est une faute particulièrement grave, hormis le fait qu'elle est l'intrusion de l'idolâtrie, elle signe l'intrusion de l'idolâtrie au pied du mont Sinaï, alors qu'on vient de recevoir la Torah. Elle est d'abord avant tout une faute qui pose une question collective à laquelle tout le monde ne va pas s'empresser de répondre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui est beaucoup plus surprenante, c'est la Gemara dans la Avodah Zarah qui nous dit que finalement, les Bnei Israël n'auraient jamais dû faire une faute pareille. Ça ne leur sied pas, ça ne convient pas aux Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, qui reçoivent la Torah au mont Sinaï, de faire une faute pareille. Et l'Agma va dire que si cette faute a été possible, c'est pour qu'après Moshe Rabbeinu, dans la même paracha, nous enseigne finalement la force de la Teshuvah. Moshe Rabbeinu va prier et va faire en sorte que Israël puisse faire Teshuvah. Et il va conduire cette Teshuvah qui va permettre après la réalisation du tabernacle, du temple, et à nouveau l'unité du peuple retrouvée autour du Beth Amikdash, autour du tabernacle, et également autour d'Hachem, autour de la Torah. Donc, Moshe Rabbeinu, c'est le premier marzir b'tchouva, c'est le premier homme dans l'histoire qui fait faire tchouva collectivement au peuple juif. Et la Gemara va dire que si cette faute a pu avoir lieu, c'est pour vous enseigner la force de la tchouva, pour que personne ne puisse dire, à aucun moment de l'histoire du peuple juif, je suis parti trop loin pour qu'on m'accepte. Voilà, la tchouva du veau d'or, elle a été acceptée. Simplement après, il y a un tikkun, il y a une réparation, qui est une réparation de la structure d'esprit. Il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on fait tchouva, il y a une chose, la tchouva peut être complètement acceptée, mais après il y a le travail de structuration de l'individu qui lui permet de renouer avec l'unité originelle. Et donc ce travail que Am Israël doit faire tout au long des âges, c'est le travail de la réunification autour d'abord de l'idée d'un destin collectif, ça c'est la première chose, autour d'un destin collectif autour d'Hachem, autour de sa Torah, de la Torah que vous avez donnée, et de manière très concrète, autour du Beth Amikdash. Parce qu'il faut comprendre que et la Torah et le Beth Amikdash sont des lieux extraordinaires, parce que ce sont des lieux dans lesquels des gens très différents viennent faire la même chose. Mais pas forcément avec la même histoire, avec un peu la même intention, mais en même temps, avec chacun une approche complètement différente. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que finalement, ce que la Torah permet, ce que le Beth Amikdash permet, c'est à des gens fondamentalement différents, ayant des histoires psychiques, personnelles, familiales très différentes, de s'unir autour de l'accomplissement des mitzvot, mais chacun en atterrissant dans cette histoire-là, avec son histoire personnelle, avec son chemin de vie personnel, et donc éclairant ce chemin collectif de sa lumière particulière. C'est ça qui est extraordinaire, finalement. Alors voilà, c'est ça qu'il faut nous souhaiter aujourd'hui, dans ce climat délétère dans lequel on vit, que chacun sache d'abord comprendre qu'on fait tous partie d'un même peuple, et qu'on soit tous alarmés les uns pour les autres, pas alarmés en allant alarmés, mais alarmés une alarme les uns pour les autres, et qu'on soit tous au moins à prier les uns pour les autres, que Hachem collectivement nous permette de vivre les uns avec les autres, et ensuite qu'on puisse par cela atteindre le but du parashat para, cette purification qui est d'abord la purification de l'esprit. La première purification de l'esprit, c'est la lutte contre l'indifférence. C'est l'amour d'Israël et l'attention à chaque juif. Il faut savoir que Hachem ne renonce à aucun juif. Hachem ne renonce à aucun juif. S'il y a des juifs ici qui peuvent se permettre de penser qu'on peut renoncer à certains juifs, lui, Hachem, il renonce à personne. Et c'est une promesse qui a été donnée. Bal Nidar, Ibeno Nidar, Hachem, il renoncera à personne. Il fera faire tchouva à tout le monde. Alors, si Hachem renonce à personne, pourquoi nous, on pourrait renoncer à des gens? C'est cette purification qui est fondamentale. Voilà, Shabbat Shalom.
Le Maharal de Prague dit, c'est pas seulement que la faute est obligatoire. Tu vas fauter, t'es pas... il dit elle est nécessaire. Il rejoint pour beaucoup l'enseignement que vous venez de donner. Il dit quand tu construis une maison, il faut que tu casses, il faut que tu payes de l'argent. Tu construis pas la maison comme ça, tu descends et après tu fais monter les murs. Mais je voudrais, évidemment je parle sous votre contrôle, si vous me dites que j'ai mal compris, vous me direz. Mais je vais vous lire, avec votre permission, Rav Mordechai Biton, ce que Cicéron, le Romain, a dit en 59, j'allais dire 1900, je suis tellement journaliste que je reste moi dans mes dates à moi. Non, en 59, de l'ère vulgaire, Cicéron a dit « Cette foule de gens que voilà, il parle des juifs, Tu sais quelle force ils représentent, combien ils sont unis et quel rôle ils jouent dans nos réunions. Dans ces conditions, je parlerai à voix basse pour que seuls les juges entendent, car il ne manque pas de gens pour exciter, bon après la suite, ces étrangers, etc. Il est très antisémite, Cicéron. Ce qui m'a beaucoup frappé en lisant ce texte, c'est qu'on est à une époque, donc 59, où on dit on a détruit le temple, ou on va détruire le temple, parce qu'on se hait les uns les autres. Et même à ce qui a été le niveau de haine qui a créé toute la diaspora, tout l'exil, toute notre histoire, parce qu'on se haïssait les uns les autres, Cicéron, vous voyez, ces gens-là, ils sont tellement unis, personne au monde n'est uni comme eux. Eh bien, moi je trouve ça très beau. Je pense
c'est intéressant parce que lui, Cicéron est l'antisémite et dit de manière finalement anecdotique, parfois pas toujours très propre, ce que la Torah dit de manière vraie et sublime. Parce que finalement, oui, on est une échama collective, et c'est ça que les gens finalement oublient, et c'est ça qui est complètement désolant.
Cicéron, déjà à l'époque des Romains, alors que nous tous, aujourd'hui, l'un des enseignements les plus partagés du peuple juif, toute personne qui a un petit peu, qui est allé un peu au Talmud Torah, c'est la destruction du temple, c'est la haine entre juifs. Et à cette époque-là, il y a un Cicéron qui vient, qui dit, mais vous savez pas ce qu'ils sont unis entre eux. Vous les connaissez, vous savez pas ce que les juifs sont unis entre eux. Et c'est quand même intéressant, Rav Mandar Habitant, ce sera mon mot de la fin, c'est pas moi qui donne les cours le vendredi, que on est en 2023 et c'est toujours pareil. Il y a toujours ce truc qui fait que s'il faut aller chercher un en Russie, on trouvera 30 ou 40 personnes pour aller le chercher. C'est beau quand même.
Bien sûr. Gardons ça en tête.
Ouais. Ouais, et ne l'oublions pas effectivement, ce qu'on est en train de se mettre sur la tête les uns les autres en ce moment, vous avez tout à fait raison, comme d'habitude. Rav Mandar Habitant, je vous remercie, et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Rav Gay, alors cette semaine, nous sommes Shabbat Para. C'est-à-dire qu'on sort deux Sefer Torah. Et donc il y a la Paracha dont on vient de parler, mais il y a aussi Para. Para, c'est la vache rousse. Paraît-il que c'est le passage le plus incompréhensible de toute la Torah. Mais ça rappelle aussi l'attitude. Alors vous allez nous expliquer tout ça. Mais ça rappelle aussi Avraham. Parce que c'est, paraît-il, dans Parashat Para qu'on retrouve l'une des expressions qui le qualifie le mieux. Je ne suis que poussière. Je ne suis que poussière et cendre. Je m'efface devant Hachem. Alors j'ai dû probablement défigurer tout ce que vous voulez dire parce que je n'ai pas ce niveau-là. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Bon.
Avec plaisir. Alors, effectivement, c'est une Gemara à laquelle vous faites allusion. Avraham dit « Anochi afar va efer ». Je suis poussière et cendre. Il le dit évidemment, c'est une expression qui montre son humilité. Lorsqu'il prie pour Sodome et Amora, il prie Hachem d'une façon particulièrement intense, il essaie de les sauver. Il dit « Je suis afar va efer », qui suis-je devant Dieu ? Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de rappeler la Gemara, qui nous dit que le mot « afar va efer », donc ces deux expressions utilisées par Abraham, sont à l'origine de deux mitzvot, de deux choses qui vont apparaître par la suite, qui sont « afar sota », la cendre de la femme sota, donc la femme qui est soupçonnée d'avoir trompé son mari et qui doit prendre une potion, la potion magique, dans laquelle il y a la poussière du temple, Beth Amikdash, le sanctuaire, la poussière donc du Beth Amikdash, et en même temps on mélangeait là-bas, vous savez, de l'eau avec le nom de Dieu. Et puis il y avait Efer. Efer, c'est à l'origine de la cendre de la vache rousse. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, évidemment, c'est de comprendre pourquoi ce lien qui est fait entre Abraham, ces deux mots, et notre sujet, c'est le sang des cendres de la vache rousse. La vache rousse, c'est, vous savez, effectivement, de la cendre d'une vache, évidemment, totalement rousse, qui devait être brûlée à l'extérieur du Beth Amikdash. Et la cendre était mélangée avec de l'eau, évidemment pas n'importe quelle eau, et on aspergeait ce qu'on appelle le mechatat, cette eau lustrale, sur le candidat à la purification. Toute personne qui rentre en contact avec un mort devient impure, et pour se purifier, on asperge les cendres de la vassousse. Alors, pas les cendres directement, l'eau mélangée avec les cendres. Alors, quel est le lien entre Abraham et les cendres dont il parle et les cendres de vassousse? C'est ce sujet que je voudrais expliquer. Alors, en fait, Afar, lorsqu'Abraham dit Afar, ça veut dire « je suis terre », mais la terre, c'est également un sens important, ça veut dire de se projeter vers l'avenir. Pourquoi? Parce que dans la terre, il y a évidemment la possibilité de semer et puis un jour de récolter. C'est la terre qui nous permet justement de faire pousser tout ce que nous permet de nous alimenter par la suite, les plantes, les fruits, les légumes, tout cela, ça pousse dans la terre. Afar, c'est se projeter vers un avenir. Efer, par contre, c'est rappeler qu'il y avait une existence, quelque chose qui existait et puis qui est complètement disparu. Donc en fait, Abraham dit la chose suivante. Je suis cendre et poussière. Et cendre, ça veut dire que tout ce que j'ai fait dans ma vie, et qui pourrait éventuellement être à mon mérite, je considère que c'est cendre, c'est-à-dire que ça n'existait pas. Je ne suis pas fier de mon passé, je ne suis pas toujours en train de... Je n'ai pas d'arrogance ou de fierté par rapport à ce que j'ai déjà fait. Et pourtant, Abraham aurait toutes les raisons d'être cendre, puisqu'il il a accepté d'être jeté dans la fournaise ardente, que Nimrod, dans laquelle Nimrod a le jeté, parce que justement, il refuse de se prosterner devant les idoles. Donc Abraham montre son refus et il a failli mourir, mais effectivement Dieu l'a sauvé. Donc il est la cendre, une cendre rituelle. Mais c'est surtout parce qu'Abraham veut dire je ne revendique aucun mérite, aucun droit parce que j'ai fait des belles choses dans ma vie. Et ensuite je suis poussière parce qu'en fait je me projette dans l'avenir. C'est-à-dire que je suis celui qui veut toujours me projeter dans l'avenir dans le sens où je veux semer, je veux produire. Je suis toujours en train d'essayer de construire un avenir. Donc je ne suis pas fier de mon passé et je suis toujours en train de me projeter vers un avenir. Donc c'est ça qui va être cendre et poussière. Ça, c'est Abraham. Mais d'un autre côté, lorsque nous parlons de la vache rousse, lorsqu'on parle de la cendre, évidemment, on parle de ce côté d'Abraham ou de l'humilité. En fait, Hachem nous demande de prendre la vache qui représente une volonté au veau d'or, le veau, la vache est la maman du veau, cette vache qui est rousse, le rouge fait penser à Esav, la cendre, évidemment, brûler la vache, c'est brûler le veau d'or, tout ça c'est évocateur de toutes sortes de avérotes potentielles, et d'homme le rouge, c'est Esav, et donc tout ça, on brûle, et on prend cette cendre et on la mélange avec de l'eau. L'eau, c'est le symbole de la vie, le symbole, évidemment, de la pureté. On mélange tout ça et on se dit, voilà, on va détruire tout ce qui est négatif, n'est-ce pas ? Et on va aussi avoir cette attitude d'humilité. Très important de retenir que le peuple juif est appelé Ephraïm aussi. Vous savez, le nom d'Ephraïm, c'est le nom du fils de Yosef, mais c'est aussi un des noms que l'on utilise pour désigner le peuple juif. Ephraïm, c'est Efer au pluriel, la cendre au pluriel. Pourquoi deux cendres ? Parce qu'on a ici de la cendre d'Abraham et celle de Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire, la cendre d'Abraham et de Yitzhak ? Abraham, qui a été jeté dans la fournaise ardente, qui en a été sauvé in extremis, et comme il était prêt à donner sa vie, c'est comme s'il avait été brûlé. Et donc, il y a la cendre d'Abraham, et il y a la cendre de Yitzhak, qui a été mise sur l'autel, qui était prêt à donner sa vie également, et être transformé en cendre également. Donc, on a deux cendres, la cendre d'Abraham, la cendre de Yitzhak, donc c'est la cendre au pluriel, ça donne Ephraïm, Efer au pluriel. Et en fait, le peuple juif, c'est celui qui est issu de ces deux grands personnages qui ont su justement se donner totalement à Dieu, s'annihiler totalement, offrir toute leur existence pour Hachem. Et c'est ça en fait que nous disons à la personne qui est candidat à la purification. Pour se purifier, il faut prendre cette force que Abraham nous a léguée et que Yitzhak également, cette annihilation de l'être. Mais dans quel but ? Dans le but évidemment de mélanger avec de l'eau, c'est-à-dire de retrouver une certaine vitalité, une force nouvelle, parce qu'on a laissé derrière nous l'arrogance, la fierté des hommes, des slaves, nous avons laissé derrière nous les tentations du veau d'or, etc. Et nous avons fait table rase de tout cela, mais nous nous projetons vers un avenir. Nous nous projetons vers un avenir avec de l'eau évidemment plus puisée dans de l'eau de source, mais chinoire, et qui nous permet justement de dépasser la mort et tout ce que ça représente, des échecs, dévaster tout ce que la destruction, pour se régénérer, réapparaître et revivre une nouvelle vie, une vie de purification. Voilà un petit peu le message que je voulais ici rappeler. Rappelons-nous Abraham, afin va faire. Un homme doit savoir que tout ce qu'il a fait, il ne doit pas considérer qu'il a fait des grandes choses, garder beaucoup d'humilité, mais toujours se projeter vers un avenir comme la phare, la terre, qui nous permet de produire, de construire un avenir nouveau en plantant des plantes et des semis pour pouvoir les attacher bientôt récolter, puisqu'on est bientôt au printemps. On va voir tout cela apparaître, pousser. Et donc, nous sommes véritablement dans le Chodesh Ha'aviv, dont nous présentons le mois du printemps, c'est le mois de Nissan. C'est le moment justement où va apparaître le peuple juif qui a été préparé, qui a été tellement, on va dire, dont les racines se trouvent chez les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont pu planter les graines, qui vont permettre justement de créer ce fameux peuple qui va sortir au printemps, au mois du Aviv. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous, et je vous souhaite à tous Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Rav, juste une question cependant, est-ce qu'on peut aussi dire que c'est de la même famille de mots que l'Afor changé? Parce qu'au regard de tout ce que vous venez de nous dire, c'est justement, c'est, on peut changer, on peut toujours changer.
On peut toujours changer. Alors, il pour, en hébreu, ça voulait peut-être dire, là, non, il y a Afor. Donc,
Afor. C'est pas pareil.
Ça, c'est avec un resh. Il pour, en hébreu, ça veut dire aussi se maquiller. Donc, oui, c'est l'autre traduction du mot Aleph, P, Pesh. Mais sinon, Afor, c'était un pourim. Effectivement, on a tout renversé, tout transformé. Mais c'est un peu ça le but. C'est ça le but, c'est que quelqu'un qui est impur, c'est-à-dire qui est un peu déprimé par la mort, par le contact avec la mort, qui retrouve une régénérescence qui est possible que si on fait table rase du passé, en tout cas des choses négatives du passé, et qu'on garde cette humilité, cette volonté de toujours se régénérer. On a du Chodesh, Nissan, c'est l'Hitratchout, le renouveau, mais pour se renouveler, il faut d'abord être capable d'enlever une certaine partie de ce que nous sommes pour justement renaître.
Rav Guy, je vous remercie. Et je vous souhaite Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom.